Alors hier, nous nous sommes attardés sur Abraham et sur l'histoire d'Isaac, Jacob et Ésaü, parce que cela nous donnait un fondement essentiel sur ce qu'est l'élection dans sa nature. Aujourd'hui, nous serons obligés de faire un parcours beaucoup plus survolé, beaucoup moins détaillé, et nécessairement donc incomplet, mais qui ce sont quelques portes ouvertes, disons. Jacob, donc, qui avait fui devant son frère Ésaü et qui avait reçu en chemin avec le songe de l'échelle de Jacob, l'assurance qu'il reviendrait au pays de Canaan et que toute sa descendance entrerait en possession de cette terre promise dont j'ai un peu parlé hier aussi. Donc, il a fui dans la parenté de ses ancêtres. Il y est resté longtemps. Et il est revenu donc avec les deux filles de Laban, son oncle, Léa et Rachel, et il a eu des enfants, en particulier les fameux fils de Jacob, qui bien plus tard, donneront leur nom aux 12 tribus d'Israël, 12 fils. Alors donc voilà, il y a 12 fils. Et là-dedans, vous voyez, l'élection, elle procède toujours d'étape en étape. Il y a toujours une élection à l'intérieur de l'élection. Et toujours une sorte de séparation, parfois dramatique, qui va se faire. Parmi les fils de Jacob, il y a deux figures qui émergent et qui sont des annonces, en fait, du Messie, de Jésus. Chacun à sa manière. Il y a Joseph. Lui, c'est une figure, je dirais, mystique, charismatique de notre Seigneur. Et puis, il y a l'autre figure qui est beaucoup plus institutionnelle et surtout historique, c'est Judas. Puisque c'est de Judas, de la tribu de Judas, que va venir d'abord le roi David, le roi selon le cœur de Dieu, et ultimement, bien sûr, Jésus. Comme nous le dit la grande généalogie de Matthieu, vous vous souvenez qu'on a évoqué hier, Jésus qui est de la maison de David. Alors attention, par qui? Par Joseph. Joseph n'est pas le père naturel, biologique de Jésus, c'est bien entendu. Il n'a qu'un seul père, celui du ciel. Mais néanmoins, Joseph assume pleinement cette paternité. Et c'est bien par Joseph que Jésus est de la maison de David, et non pas par Marie. Même s'il y a beaucoup de passages de la tradition ou des méditations qui disent que Marie est de la famille de Jessé aussi, etc., il n'y a aucune indication historique ou biblique qui nous permette d'affirmer cela. En tout cas, Matthieu, lui, c'est bien par Joseph, il aboutit à Joseph, et il dit, arrivé à Joseph, l'époux de Marie de laquelle est né Jésus le Christ. Donc, Judas, commençons d'abord par Joseph. Là, de nouveau, il y a donc une élection, visiblement. Joseph était pratiquement le fils préféré de Jacob. Alors déjà, ça ne marche pas très bien. Ses frères virent que son père l'aimait plus que tous ses autres fils et ils le prirent en haine, devenu incapable de lui parler amicalement. Alors Joseph, il est gratifié de songes. Il a des songes. Ce n'est pas sans annoncer que le Joseph que nous vénérons pendant le temps de l'Avent, pendant le temps de Noël, Saint Joseph, lui aussi, il avait des songes. C'est en songe que l'ange est venu lui parler à plusieurs reprises, aussi pour des événements dramatiques comme pour la fuite en Égypte par exemple. Donc il avait des songes, et alors ce n'est peut-être pas très malin de lui, de sa part, c'est qu'il en fait part à ses frères, qui le haïrent naturellement encore plus, parce qu'il leur dit « Écoutez le rêve que j'ai fait ». Il me semblait que nous étions tous alliés des gerbes, et voici que ma gerbe à moi se dressa et qu'elle se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et elles se prosternèrent devant ma gerbe. Donc c'est pas très diplomatique de dire ça. Ses frères lui répondirent, peut-être même à juste titre, voudrais-tu donc régner sur nous en roi, ou bien dominer en maître? Et ils le haïrent encore plus à cause de ses rêves. Et alors ça continue. Là, le prochain rêve, c'est encore le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Voilà. Il raconta cela à son père. Alors son père d'abord, dans un premier temps, très sagement, il le gronda et lui dit « En voilà un rêve que tu as fait. Allons-nous donc, moi, ta mère et tes frères, venir nous prosterner à terre devant toi ?» Et ses frères furent jaloux de lui. Mais quand même, son père gardait la chose dans sa mémoire. Gardait la chose dans sa mémoire. Comme Marie, au temps nouveau, gardait dans son cœur toutes ces choses. Toujours est-il que donc les frères vont prendre en haine Joseph et ils vont se débarrasser de lui. D'abord, le premier projet, c'est de le tuer. Et puis finalement, ils vont le vendre à une caravane d'Ismaélites qui descendent en Égypte. Et c'est là, justement, qu'il y a des annonces en filigrane de ce que sera la passion du Seigneur. Il va être vendu pour quelques pièces d'argent à cette caravane d'Ismaélites. Voilà. Vendons-le, dit un des frères, vendons-le aux Ismaélites, ne portons pas la main sur lui. Voilà. Alors, il est vendu, comme Jésus sera vendu au moment de sa passion. Il va connaître un temps de persécution en Égypte, et puis, à cause de ses songes, il va être entendu par Pharaon, très inquiet d'un rêve qu'il venait de faire, et c'est là qu'il décrit donc la grande famine qui va s'abattre sur le pays, sur toute la région. Et donc, il va entrer en faveur auprès de Pharaon, du roi d'Égypte, qui va en faire carrément le deuxième personnage du royaume. Une sorte de ministre de l'économie et des finances, si vous voulez, l'intendant de tous les biens, pour pouvoir traverser cette dure période de famine et faire en sorte que l'Égypte, eh bien, ne soit pas victime de cette famine. Donc, grâce à une très sage économie, Joseph va devenir l'intendant et l'Égypte va devenir le lieu réputé dans toute la région où on peut se procurer du blé, on peut se procurer de la nourriture. Donc voilà, Joseph vendu, mais élevé en dignité. Là aussi, il y a quelque chose qui annonce la royauté du Christ. Ce roi, d'abord roi des Juifs, objet des sarcasmes, des mauvais traitements, de la passion et finalement de la mort. Et puis finalement, établi roi et seigneur au moment de la résurrection et surtout au moment de l'ascension. Donc une élévation. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, dit l'Épître aux Philippiens, en lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'effectivement, au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc Joseph est vraiment, il y a dans la dynamique de sa vie, de sa vocation, quelque chose qui est extrêmement fort. Mais surtout, et là c'est une belle figure de l'avant aussi, il y aura les retrouvailles avec ses frères, car les frères, eux, la famille de Jacob, eh bien, ils sont victimes de la famine. C'est terrible. Tout le pays est cruellement frappé par la famine, et donc les frères entendent qu'il y a en Égypte de quoi se nourrir, de quoi acheter du blé. Alors ils se mettent en route, et ils vont se trouver devant Joseph. Ils ne vont pas le reconnaître. Il est habillé en égyptien, en grand dignitaire, impossible de le reconnaître, mais lui va les reconnaître. Alors après bien des péripéties, donc là nous n'avons pas du tout le temps de voir, arrive le moment où il va enfin se faire reconnaître d'eux. Il va d'abord les renvoyer, puis ils vont revenir, etc. Et alors c'est au chapitre... Alors l'histoire de Joseph commence au chapitre 37 hein, du livre de la Genèse, 37. Mais là nous sommes déjà au chapitre 45 où il va se faire connaître. Alors, il y a un moment où il est dit, Joseph ne put se contenir devant tous les gens de sa suite et il s'écria, faites sortir tout le monde d'auprès de moi, c'est-à-dire tous les Égyptiens qui l'entouraient. Il veut être seul, seul avec ses frères, en cœur à cœur. Faites sortir tout le monde. Personne ne resta auprès de lui pendant que Joseph se faisait connaître à ses frères. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore ? Alors les frères sont bouleversés et c'est l'étreinte, les grandes retrouvailles. Alors c'est là où Joseph est une figure digne du Messie, de Jésus. Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu en Égypte. Mais maintenant, ne soyez pas chagrin et ne vous fâchez pas de m'avoir vendu ici. Car c'est pour préserver vos vies que Dieu m'a envoyé en avant de vous. Voici en effet 2 ans que la famine est installée dans le pays, et il y a encore 5 années sans labour ni moisson. Dieu m'a envoyé en avant de vous pour assurer la permanence de votre race dans le pays et sauver vos vies pour une grande délivrance. Ainsi, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Et il m'a établi comme père pour Pharaon, comme maître sur toute sa maison, comme gouverneur dans tout le pays d'Égypte. Est-ce que vous vous rendez compte de la densité de ces paroles ? Joseph dit, certes, oui, vous avez très mal fait, vous m'avez vendu, vous m'avez trahi. Mais c'était finalement pour votre bien. Joseph est rédempteur. Il dit, surtout ne vous attristez pas. Et là, on est vraiment au seuil du mystère christique. Jésus qui nous dit en fait, eh bien, je vous guéris et vous sauve à travers les blessures que vous m'avez vous-même infligées. C'est le comble de l'amour, là. Et je suis en avant de vous. Et en fait, c'est Dieu qui m'a envoyé. Dieu envoya son Fils pour être notre rançon. Donc Joseph est une admirable figure du Christ ici. Donc ces paroles-là, je vous invite à les relire quand vous aurez un peu de temps. C'est au début du chapitre 45. Voilà. Et maintenant, il dit « Remontez vite chez mon père, etc. » Alors, par rapport au mystère même d'Israël que nous méditons, l'élection, là, je vous cite le commentaire d'un juif messianique. Alors, les juifs messianiques, ce sont des juifs et qui continuent à pratiquer leur religion, avec toutes les règles, les commandements, etc., mais qui ont reconnu Jésus. Alors, il y a différents degrés. Il y en a qui le reconnaissent comme Messie, d'autres qui le reconnaissent comme Fils de Dieu, d'autres qui vont se faire baptiser même, donc un baptême réellement valide, chrétien, mais plutôt de type protestant ou évangélique. Ils n'entrent pas forcément dans l'Église catholique. Les juifs messianiques, en tout cas classiques, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, mais ne reconnaissent pas l'Église catholique ou ne la respectent pas pour diverses raisons, surtout historiques. Mais donc, il y a des juifs messianiques qui se font baptiser. Et quand c'est en Israël, ils se font baptiser dans le Jourdain. Mais il y en a énormément aux États-Unis, il y en a en France. Donc, ils ne font pas partie d'une église ou d'une communauté ecclésiale. Ils se revendiquent toujours comme juifs, mais ce sont un autre nom pour eux, ce sont des juifs pour Jésus. Alors, il y en a un qui lui est très proche de l'Église catholique, qui fait le commentaire suivant. Il dit que Israël, dans un premier temps, n'a pas reconnu le Christ, ce qui reste vrai, et ce qui reste toujours vrai de la plus grande partie du peuple d'Israël, même actuel. Ils ne reconnaissent pas Jésus comme Messie d'Israël ou comme Fils de Dieu. Et ils disent, alors ce commentaire dit que actuellement, les Juifs, même de notre temps, ne sont pas capables de reconnaître Jésus, qui est pourtant un des leurs, parce qu'il a pris un vêtement, comme Joseph. Joseph est habillé en égyptien. Jésus, leur Jésus, ils ne le reconnaissent pas, parce qu'il a pris le vêtement romain, le vêtement byzantin, le vêtement asiatique, le vêtement des grandes cathédrales, des grandes basiliques, des icônes, toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec le passé ou la culture juive au premier abord. Donc, ils ne le reconnaissent pas. Mais viendra un jour, alors c'est une dimension vraiment qui parle de la fin, connue de Dieu seul, où il viendra leur parler cœur à cœur, comme Joseph, qui a dit aux Égyptiens, maintenant tout le monde dehors, laissez-moi seul avec eux. Et viendra le moment, dit ce commentaire, où il sera seul à seul avec eux, et il leur parlera au cœur en leur disant, « Bien voilà, je suis Jésus, je suis Yeshua, votre frère. » Alors ce sera les grandes, grandes retrouvailles, la grande réconciliation, et ce sera l'entrée donc du peuple juif dans la foi. dans la foi de l'Église, qui, selon saint Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 11, dit que lorsqu'ils intégreront la foi, ce sera rien de moins qu'une résurrection d'entre les morts. Quelque chose de très lourd de sens. Peut-être que j'en parle maintenant parce que j'ai peur d'oublier après et qu'on est justement dans le temps de l'Avent. Nous savons que le temps de l'Avent, ce n'est pas seulement la mémoire de Noël qui approche, c'est aussi l'attente de la deuxième venue en gloire. Alors, fort de cette affirmation de saint Paul qui dit que lorsque les Juifs reconnaîtront, lorsqu'Israël reconnaîtra le Christ, ce sera rien de moins qu'une résurrection d'entre les morts, le catéchisme de l'Église catholique va dire quelque chose de très audacieux, mais de très fondé. Si vous voulez noter, éventuellement, simplement la référence du paragraphe, c'est 674. Paragraphe 674, où ils disent, où le catéchisme dit ceci. La deuxième venue en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ est suspendue à tout moment de l'histoire à sa reconnaissance par tout Israël. Voilà. Lorsque Israël, et personne ne peut dire comment ça va se faire, ni quand ça va se faire, sous quel mode, c'est un mystère. Mais quand Israël reconnaîtra le Christ, pas simplement quelques individus, parce qu'il y en a, à chaque génération, il y a même un grand nombre de Juifs qui deviennent chrétiens et qui entrent dans l'Église. Il ne s'agit pas d'individus, si nombreux soient-ils. Il s'agit de quelque chose qui va toucher le peuple entier, en tant que peuple, dans son entité. Lorsque Israël, en tant que peuple, reconnaîtra le Christ, ce sera le signe que les temps sont mûrs. Alors, l'Église sera pleinement catholique. Elle sera enfin, réellement, totalement catholique dans sa plénitude. Elle est déjà catholique, universelle, parce que la bonne nouvelle a déjà couvert toutes les régions du monde. Mais il lui manque encore quelque chose d'essentiel tant que le premier appelé, le frère aîné, la racine de l'Église, n'a pas encore intégré. Mais lorsqu'il intégrera, alors ce sera la plénitude. Et alors, tout sera mûr pour que Jésus puisse revenir en gloire. Donc c'est dire que ce temps de l'Avent peut être aussi pour nous, si nous sommes sensibles à ce mystère d'Israël et à la vocation d'Israël, un temps de prier pour ce qu'on appelle l'illumination du peuple juif. Pour qu'ils reconnaissent Jésus. Et là, je fais peut-être une grosse parenthèse encore, mais là, ça nous concerne tout à fait. Cette prière pour Israël, pour l'illumination du peuple juif, elle a connu un moment de ferveur ici même, à Paray-le-Monial, ici, au XIXe siècle. En 1875, il y avait comme visiteurs réguliers à Paray-le-Monial, deux frères jumeaux de Lyon, juifs tous les deux, qui se sont fait baptiser parce qu'ils se sont convertis ensemble, et puis ils sont devenus prêtres ensemble, les frères Lehmann, Augustin et Joseph Lehmann. Leur conversion et leur baptême a été la cause d'une brouille totale avec leur famille. Ils sont venus souvent à Paray-le-Monial, ils avaient une dévotion extrêmement brûlante pour le Sacré-Cœur et pour Marguerite Marie, et naturellement un amour très ardent pour leur peuple et une soif de l'illumination du peuple juif. On parle plutôt d'illumination que de conversion, car conversion, c'est partir d'un état de non-foi du tout ou carrément d'une vie païenne totalement en désordre pour se convertir, se tourner vers le vrai Dieu. Or le vrai Dieu, c'est eux qui nous l'ont donné. On ne peut pas dire qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais l'illumination, c'est pour qu'il fasse le pas de plus, la plénitude. Alors, il y a quand même une conversion. Parce que la conversion à Jésus implique, du coup, aussi tout un changement de mentalité ou d'habitude, peu importe. Mais on parle d'abord d'illumination. Donc, les frères Lehmann. Et voici qu'en 1875, qui est le bicentenaire de la grande apparition, un des frères Lehmann baptise à la chapelle des apparitions un jeune juif de 17 ans. Premier juif à être baptisé au Sacré-Cœur, dans la chapelle des apparitions. Et quelque chose d'absolument unique, qui a suscité toute la ferveur de Paray-le-Monial. Dans la suite de cette ferveur, quelques années plus tard, les frères Lehmann, justement, pour encourager le peuple à prier pour l'illumination d'Israël, va faire fabriquer par un orfèvre une très belle lampe, une lampe somptueuse qu'on appelle la lampe d'Israël. Elle est toujours dans la chapelle, on peut la voir. Elle ne brûle plus là où elle était avant. Il faut la trouver. Elle est exactement en face de la chasse de Marguerite Marie, de l'autre côté, à l'opposé, ou alors, si vous préférez, tout proche, la première lampe, côté gauche, lorsqu'on regarde l'autel, tout proche de l'autel de Saint-Joseph. Elle est là, la fameuse lampe d'Israël, avec plein de symboles. Un écusson qui pend avec des feuilles, c'est la tige de Jessé, 12 écussons qui entourent, qui sont les 12 tribus d'Israël, l'épisode de Moïse frappant le rocher, ce qui est une annonce en fait du cœur de Jésus. L'eau qui jaillit du rocher annonce l'eau qui va jaillir du cœur de Jésus, et c'est Moïse qui le frappe pour désaltérer le peuple. Donc voilà. Et puis Marie qui chante le Magnificat, sur tous les versets, il relève Israël son serviteur. Or cette lampe, à la demande des frères Lehmann, c'était la lampe du sanctuaire, c'est-à-dire elle pendait à partir du plafond, et c'était la lampe du tabernacle qui signalait la présence réelle. Et l'intuition très belle des frères Lehmann, c'était que cette lampe, en signalant la présence réelle, est en même temps une intercession jour et nuit au cœur de Jésus pour son peuple. Pour ce peuple, n'oubliez pas, ce peuple qui lui a donné son cœur de chair. Bien sûr, c'est passé par Marie, mais Marie est fille d'Israël. Donc c'est par Israël qui est devenu l'incarnation et le cœur de chair de Jésus que nous vénérons ici à Paray-le-Monial. C'est le cœur que lui a donné Israël, son cœur de chair, son cœur humain. Et alors les frères Lehmann demandaient qu'on prie beaucoup pour l'illumination d'Israël. Donc c'était un grand moment au 19e siècle. Là-dessus, parce que l'histoire ne se finit pas comme ça, arrive à Paray-le-Monial une sœur du sud de la France, Marie-Espérance, qui aurait voulu entrer au Carmel, mais son état de santé ne lui permettait absolument pas. Alors, elle est entrée à la Visitation de Paris. Alors, elle, c'était une sœur, une vraie fille du sud de la France, une bonne tradition catholique, rien, absolument rien, ne la prédisposait à s'intéresser au mystère d'Israël, surtout à l'époque. Il y avait vraiment, donc, elle n'avait aucune idée de tout ça. Elle arrive à Paris, elle entend plusieurs homélies des frères Lehmann, elle voit la lampe, et, alors c'est une effusion de l'esprit, elle est prise d'un amour fou pour le peuple de la Première Alliance et décide de consumer sa vie pendant tout son séjour à Paray-le-Monial pour prier et pour l'illumination d'Israël. Alors elle va prier, elle va écrire des poèmes, elle va écrire des prières, elle va vivre très âgée, contrairement à tous les pronostics qu'on pouvait faire à cause de sa santé, et on va l'appeler la lampe vivante d'Israël, tellement elle s'est consumée. Donc vous voyez, il y a toute une histoire là, qu'il est très important que vous connaissiez, et qui a été liée à un moment donné au Sacré-Cœur, ici, à Paray-le-Monial. Et donc, le mystère d'Israël est inséparable du mystère du Sacré-Cœur, puisque ce Sacré-Cœur, c'est le cœur de l'enfant le plus accompli du peuple élu, le peuple d'Israël. Donc voilà. Tout ça pour dire qu'il serait légitime de prier à la manière du Concile Vatican II, avec ce nouveau regard, non pas, bien sûr, c'est même pas nécessaire de le dire, il ne s'agit plus du tout de ce prosélytisme qu'il y a eu pendant des siècles, avec menaces et baptêmes forcés, je ne sais pas quoi. Tout ça, ça a été complètement rejeté par l'Église du Concile. Mais de prier tout simplement pour le frère aîné, pour que Jésus lui parle au cœur comme naguère Joseph a pu parler à ses frères. Donc, comme conséquence de ces retrouvailles, finalement, les frères vont retourner auprès de leur père Jacob, qui est vieux. Ils vont lui raconter que voilà, Joseph est toujours vivant. Et c'est toute la famille qui va émigrer en Égypte pour pouvoir subsister. Toute la famille, on nous dit que c'est 70 en tout. La descendance de Jacob et Jacob lui-même. Donc, ils vont descendre en Égypte. Et c'est là que Jacob va mourir. Et c'est là que, au chapitre 49, donc, vous avez justement la mort de Jacob, il est sur son lit de mort et il va faire venir tous ses fils autour de son lit de mort pour prononcer une bénédiction sur chacun. Certaines de ces bénédictions sont très énigmatiques, mais il y en a une qui ressort parmi toutes et qu'on va entendre pendant le temps de l'Avent. C'est à partir du verset 8, la bénédiction sur Judas. Là, nous en arrivons à l'autre grande figure messianique de l'Avent. Alors, il va dire, « Judas, toi, tes frères te loueront. Ta main est sur la nuque de tes ennemis. » Donc, il y a question d'une victoire. « Et les fils de ton père s'inclineront devant toi. » Judas est un jeune lion. D'où l'emblème du lion qui est le signe de la tribu, l'emblème de la tribu de Judas, justement. D'où ce qu'on entend dans l'Apocalypse, justement, à un moment donné. Il a vaincu le lion de la tribu de Judas. Alors, dit le voyant de l'Apocalypse, je vis un agneau, comme immolé. Donc, Judas est un jeune lion. Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, le sceptre, le signe royal, ni le bâton de chef d'entre ses pieds. Jusqu'à ce que le tribut lui soit apporté et que les peuples lui obéissent. Voilà une prophétie messianique et royale. Ça veut dire que la royauté adviendra dans la tribu de Judas, dans la descendance de Judas. Judas est celui qui est choisi, et c'est là que je vous disais que l'élection, là, elle était vraiment institutionnelle et historique. C'est de Judas que va venir d'abord le roi David, le grand roi, le roi par excellence, le roi selon le cœur de Dieu, le roi d'Israël, et ultimement le descendant de David, bien sûr, Jésus. Et le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, jusqu'à ce que tous les peuples lui obéissent. Voilà. Donc la tribu royale, la tribu du sceptre, pas à ce stade encore, au moment où Jacob parle, il n'y a même pas question de roi. La royauté ne viendra que lors du ministère de Samuel, beaucoup plus tard, beaucoup, beaucoup plus tard. Et d'ailleurs, elle ne commencera pas par la tribu de Judas, mais par la tribu de Benjamin. Mais ça ne va pas durer très longtemps. C'est avec Saül. Et il va être rejeté par Dieu, parce qu'il a déplu à Dieu, et finalement ça va être David qui va être revêtu de l'onction. Alors il y a des descendants de David qui sont illustres, comme Salomon, justement, le grand Salomon. Ensuite il y a eu des ombres terribles dans la descendance, des rois qui ont commis l'abomination, quelques rois qui étaient bons, mais tout cela aboutit finalement à Jésus, comme nous le montre la généalogie de Matthieu. Judas. Car tout cela descend de Judas. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas de son union avec Tamar engendra, etc. Donc c'est vraiment la descendance de Judas. Alors c'est là que les pères de l'Église, avec les versets suivants, ont fait des commentaires. Alors ça, c'est une lecture purement chrétienne, mais qui est évidemment très belle. On sent là des annonces qui parlent à notre cœur. Judas lit à la vigne, il est question de la vigne, son ânon. Il y a un ânon. L'ânon, c'est la bête royale. Hein. Pour l'intronisation, pour le sacre d'un roi, il était monté sur un ânon, pas sur un cheval. Le cheval est très négatif dans la Bible. Il est signe d'une puissance plutôt païenne. C'est pas la force des chevaux qui va nous sauver. Mais là, c'est un ânon. Le roi vient sur un ânon. Donc, il lit à la vigne son ânon au sept. Le petit d'une ânesse, de son ânesse. Il lave son vêtement dans le vin, son habit dans le sang des raisins. Alors vous voyez, c'est très mystérieux. L'écriture inspirée, les pères de l'Église y ont vu en fait une annonce de la passion. Il lit à la vigne qui va donner le vin qui est le sang du Christ. Il lit à la vigne son ânon, il va venir à Jérusalem monter sur un petit âne, un ânon. Il lave son vêtement dans le vin, son habit dans le sang des raisins. Comme plus tard, l'Église, qui est son corps mystique, va laver ses vêtements dans le sang de l'agneau. Hein, comme il dit dans l'Apocalypse, ils viennent de la grande épreuve, toutes ces multitudes qui agitent des palmes à la main, qui acclament le Seigneur des palmes à la main, ils ont lavé leurs vêtements, leurs robes, dans le sang de l'agneau. Et maintenant, leur robe est plus blanche que du lin. Ils sont immaculés. Eh bien, ce verset 11 est étonnant du chapitre 49. Donc, vous voyez, il y a plusieurs résonances dans l'élection d'Israël, dans la vocation d'Israël, qui, en fait, nous ramène toujours au seuil. Et je rappelle ce que je vous ai dit hier, le Nouveau Testament n'est pas tellement un livre d'histoire, ou encore moins une biographie de Jésus, ou une chronique des événements, c'est d'abord un témoignage. C'est le témoignage que toutes ces écritures, dont nous ne voyons qu'une toute petite partie ici, que toutes ces écritures sont accomplies maintenant. Elles sont accomplies en qui ? Eh bien, bien sûr, en Jésus, et par extension, en son peuple qui est l'Église, ou en son corps mystique. C'est pour ça qu'il nous faut connaître au moins un minimum, être conscient de cette densité du mystère d'Israël et de son élection. Un théologien moderne disait, il est allé très loin, en disant que pour un chrétien, s'il communie sans avoir au moins dans sa conscience, même s'il ne le formule pas à chaque fois, s'il communie sans avoir dans sa conscience tout ce qui a amené Jésus, toute cette histoire qu'il a amenée, cette histoire d'élection, de grâce et de génération en génération, cette histoire de sainteté, ou de repentir, etc. Eh bien, si un chrétien communie en obnubilant totalement cet aspect-là, c'est comme si on célébrait une Eucharistie sans pain. Voilà. Il n'y a pas de matière, c'est purement... c'est du vague. Le pain, la réalité, eh bien là, le pain, pour lui, c'est toute l'histoire d'Israël. C'est tout ce qui a porté Jésus et dont il a été lui-même l'accomplissement. Donc voilà pour l'annonce faite à Judas, la bénédiction donnée à Judas. Alors Jacob va mourir, Joseph aussi, et c'est là que maintenant nous quittons définitivement le livre de la Genèse et nous arrivons bien sûr à l'Exode. Mais rassurez-vous, il n'est pas question qu'on fasse tous les livres comme ça, même pas de façon survolée de la Bible. Là je me prends maintenant, je suis obligé de faire des coupes sombres. Et je prends donc uniquement des choses qui peuvent un peu nourrir notre méditation. Donc tout d'abord Moïse, voilà, les temps ont changé. Le début du livre de l'Exode nous le rappelle. Il y a un nouveau pharaon et qui n'avait pas connu Joseph. Le peuple entre-temps se grandit, il s'accroît en Égypte, signe de bénédiction, signe d'élection, j'en ai déjà parlé hier. Alors pharaon en prend ombrage et il a peur surtout. Dit que voilà, ce peuple qui devient de plus en plus nombreux risque de se retourner un jour contre l'Égypte. Donc, il va vouloir d'abord anéantir les forces de ce peuple en lui imposant un très dur esclavage, voilà, pour l'empêcher de croître. Rien n'y fait, il continue à croître. Alors, il va en arriver à cette mesure inique. Tous les petits garçons qui viennent au monde, dit-il aux sages-femmes égyptiennes, jetez-les dans le Nil. Voilà, là on a déjà ce que je vous ai dit hier, par-delà même ces décisions de Pharaon, on entre dans ce combat contre l'élection, les ténèbres qui veulent étouffer l'élection. Et là c'en est vraiment un symptôme, parce qu'on s'en prend justement aux garçons qui vont transmettre la vie. Alors Moïse était promis à cette destinée-là, mais voilà que Dieu va intervenir. Moïse va être sauvé. Sa mère le met dans une corbeille fermée qui flotte sur le Nil, là où la fille de Pharaon va le découvrir. Alors là, on a déjà tout un symbole. La petite corbeille flottant sur les eaux et assurant la vie de Moïse n'est pas sans rappeler l'arche de Noé déjà, qui, en laquelle subsiste tout l'avenir de l'humanité et même de la création. Le petit reste dans l'arche de Noé. Mais surtout, la corbeille flottant sur le Nil est une annonce de notre baptême et de l'Église. les eaux dans lesquelles Moïse aurait dû mourir, noyé, comme tous les petits garçons de son peuple, selon le décret de Pharaon, sont au contraire les eaux qui lui donnent la vie, qui le font survivre, sur lesquelles il flotte, mort et résurrection, symbole de notre baptême. Alors il va être sauvé par la fille de Pharaon qui le prend en pitié, il va grandir à la cour d'Égypte, et puis il va quand même s'enquérir, il sait d'où il vient. Alors c'est l'épisode, justement, il voit un Égyptien frapper un Hébreu, il tue l'Égyptien, la nouvelle est connue, et il sait qu'il va mourir, donc il fuit. Voilà, au moment voulu, nouvelle séparation. Il quitte la cour d'Égypte, dans laquelle il était pourtant bien traité, comme un des enfants favoris de la fille de Pharaon, prince d'Égypte. Il fuit. Et il s'en va dans le désert, comme naguère Abraham, dans des circonstances bien sûr moins dramatiques. Il va être recueilli par un prêtre païen, mais un prêtre, donc, ça fait partie de ces gens très droits qui obéissaient à leur conscience, qui adoraient le Dieu créateur et qui le servaient. Il va épouser la fille de ce prêtre, il va devenir maintenant, il était promis pour être prince, il va devenir berger. La dimension pastorale de l'histoire de la rédemption. Les bergers. David aussi sera berger. Et puis c'est à des bergers à Bethléem que la bonne nouvelle va être annoncée en premier, en tout premier, pas à la cour royale, qui d'ailleurs n'existe pas en Israël à ce moment-là. Il n'y a pas de roi en Israël au moment de la naissance de Jésus. Mais toujours est-il, voilà, tout est plein de symboles. Alors c'est là qu'il va rencontrer, qu'il va vivre l'événement fondateur de sa vocation, au chapitre 3, le buisson ardent. Alors Dieu se manifeste dans le buisson ardent. Moïse veut faire un détour, il veut voir ce phénomène, le buisson qui brûle mais qui ne se consume pas. Les pères de l'Église ont abondamment commenté ce passage, disant que c'est une annonce de l'incarnation. La divinité de Jésus ne consume pas, ne détruit pas son humanité. Les deux natures, humaine et divine, sont unies dans l'unique personne de Jésus. Et le buisson ardent annonce cela. La divinité de Jésus ne consume pas, ne détruit pas son humanité. D'autres auteurs spirituels voudront l'appliquer à la Vierge Marie. Elle reçoit en elle le Verbe divin, le Fils éternel du Père, Dieu lui-même donc, mais en le recevant dans son sein, son humanité à elle n'est pas détruite. Donc il y en a qui assimilent Marie au buisson ardent. Le feu de la divinité brûle en elle, par la présence de Jésus, mais elle n'est pas détruite, elle n'est pas consumée. Et enfin, nous concernant aussi, le cœur de Jésus, fournaise ardente de charité, est assimilé au buisson ardent par plusieurs saints dans l'histoire de l'Église, comme Marie de l'Incarnation, par exemple, ou alors tout récemment, saint Jean-Paul II, dans un de ses Angelus. Le cœur de Jésus, fournaise ardente de charité, nous rappelle, dit-il, le buisson ardent qui ne se consume pas. Le cœur de Jésus, le feu ne s'éteindra jamais du cœur de Jésus. Alors il poursuit en disant, le feu qui brûle dans le cœur de Jésus, c'est d'abord l'Esprit Saint. C'est surtout l'Esprit Saint, etc. Jésus, le cœur de Jésus est étreint, dit-il, par la vive flamme trinitaire. Mais il l'applique au buisson ardent aussi. Donc vous voyez déjà, le symbole du buisson ardent est d'une extrême richesse pour notre foi. Alors c'est au cours de cette rencontre, révélation, que Moïse reçoit sa vocation. Et surtout, où déjà aussi est annoncée l'incarnation, la descente de Dieu parmi les siens, le Verbe qui va se faire chair. Parce que déjà Dieu dit à Moïse, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu son cri, je connais ses angoisses, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et le faire monter de cette terre vers une terre plantureuse et vaste, une terre qui ruisselle de lait et de miel, etc. Je suis descendu annonce de la vraie descente, cette fois-ci substantielle, le Verbe qui se fait chair. Philippiens, le Christ Jésus n'a pas voulu garder comme un privilège le rang qui l'égalait à Dieu, il s'est anéanti, il s'est dépouillé, prenant la condition d'esclave, jusqu'à la mort de la croix. Donc il y a déjà quelque chose là. La rencontre de Moïse au buisson ardent marque une étape essentielle dans l'histoire de l'élection. C'est une étape fondatrice. Dieu fait connaître son nom à Moïse. Dieu livre son identité à Moïse, la plus intime. On peut approcher Dieu par plein de détours, par plein d'attributs, et qui sont tous vrais, mais qui n'épuisent pas le mystère de Dieu. On peut dire que Dieu est amour, que Dieu est infini, il n'a jamais commencé, il ne finira jamais, il est tout puissant, il est tout souverain, il est éternel, ce sont des attributs. Là, il livre son identité la plus profonde. Je suis. Il est la plénitude d'être. Ce qu'en philosophie, plus tard, surtout sous saint Thomas d'Aquin, on parlera en termes philosophiques de Dieu comme l'acte pur d'exister, c'est-à-dire d'une existence qui ne tire son existence de nulle part, qui est en elle-même cette existence plénitude, par elle-même, et d'où toutes les autres existences tirent leur existence. Il en est la source absolue et inépuisable. Donc je suis celui qui suis. Je suis. Le fameux nom imprononçable. En fait, le nom imprononçable est une forme très très archaïque en hébreu du verbe être. Le verbe être, c'est haya. Voilà. Et là, donc, c'est de là est né le nom divin. Donc, je suis. Là, il livre son identité. Et ça va être redoutable comme responsabilité pour Israël. Israël devient du coup, par la personne de Moïse, le peuple qui reçoit en héritage le nom trois fois saint. Le nom même de Dieu. C'est pour ça qu'on va appeler Israël le peuple de la sanctification du nom. Quelle responsabilité redoutable. Porter le nom de Dieu. Alors dans mes enseignements sur le cœur de Jésus, sur lequel je ne peux pas maintenant faire un détour, je dis simplement ceci. En livrant son nom, Dieu prend un risque. Donc il y a déjà une vulnérabilité consentie. Il sait très bien qu'il risque que ce nom sacré soit sali, profané au milieu des nations, ce qui va arriver dans l'histoire d'Israël. Ce que les prophètes vont reprocher au peuple, surtout Ézéchiel. Vous qui avez sali mon saint nom, c'est Dieu qui parle par Ézéchiel, vous avez sali et profané mon saint nom au milieu des nations. Mais c'est par égard pour mon saint nom que je vais quand même vous sauver. Voilà. Certainement pas parce que vous avez fait du bien, vous n'avez fait que du mal, mais c'est par égard à mon saint nom que je vais quand même vous sauver. Car je ne permettrai pas que mon saint nom soit davantage profané et vilipendé au milieu des nations. Donc le nom de Dieu. Israël va être le peuple porteur du nom de Dieu, qui va finalement aboutir avec le nom donné à Jésus, Yeshua. Voilà. Dieu sauve. Donc voilà pour l'épisode du buisson ardent. Très importante, marque fondatrice de l'élection. Israël devient le peuple de la sanctification du nom. Il connaît Dieu par son nom. Et en cela, alors, il est tout à fait mis à part de toutes les autres nations qui ne connaissent rien, qui sont complètement aveuglées par l'idolâtrie, les faux dieux, les fausses religions, etc. Alors maintenant, tout le reste, on ne va pas le passer en revue. Nous savons quel dur combat Moïse doit mener contre Pharaon pour finalement pouvoir sortir d'Égypte. Et alors, c'est la fameuse Pâque où ils sortent d'Égypte. Donc enfin, ils vont se séparer de l'Égypte. Vous savez aussi que Pharaon se ravise à un moment donné, là je fais vraiment des raccourcis énormes, et va poursuivre le peuple dans le désert jusqu'au bord de la mer Rouge. Grand moment d'angoisse, Là, il y a un passage très... Donc, vous trouverez vous-même. Je ne vous donne pas toujours les références. Hein. Ça vous obligera aussi à souhaiter la parole de Dieu. J'avais un professeur de théologie quand j'étais d'exégèse biblique. Et il avait l'habitude de dire, quand on lui demandait, alors c'est quel chapitre, quel verset, il a dit, je suis désolé, je ne suis pas un annuaire de téléphone. Donc, je disais que vous chercherez. Voilà. Vous explorerez vous-même. Donc, vous lirez dans le livre de l'Exode tout cet épisode de la mer rouge, etc. Mais juste avant... Il est dit que c'est la nuit. C'est la nuit. Et les Égyptiens sont tout proches du peuple. Il y a de quoi angoisser. Mais il y a une colonne de feu et de nuée qui s'interpose entre les deux. C'est Dieu qui veille. Qui veille. Alors, il y a l'épisode de la mer rouge. Alors, nous savons très bien l'interprétation chrétienne que nous en donnons. C'est une figure de notre baptême, hein. Le peuple élu traverse à pied sec et arrive sain et sauf de l'autre côté, tandis que les eaux recouvrent les ennemis. Donc c'est une figure du baptême, recouvre le vieil homme, le péché et surtout le démon qui nous poursuit, qui ne peut pas tolérer que nous soyons sauvés. Et les eaux donc du baptême à la fois nous donnent la vie, mais recouvrent aussi tout ce qui est péché, tout ce qui est agissement du démon. Mais ce qui nous importe là, c'est de voir la dimension de séparation qu'il y a de nouveau. Les eaux se séparent pour laisser passer le peuple élu. De nouveau, cette dimension de séparation dont je vous parlais hier. Et une fois le peuple élu arrivé sur l'autre rive, les eaux se réunissent de nouveau, engloutissant l'ennemi. Là, c'est la séparation définitive entre Israël et l'Égypte, en tout cas bien sûr du point de vue biblique. Donc le peuple élu qui sort victorieux. Donc évidemment, l'épisode de la mer Rouge va être l'épisode emblématique qui va soutenir tout le peuple jusqu'à nos jours aujourd'hui, jusqu'à nos jours, dans son cheminement. Surtout au milieu des épreuves, justement dans les moments les plus durs, comme l'exil à Babylone, ou d'autres, ou la persécution avec Antiochus Épiphane. Dans les moments les plus durs où le peuple avait l'impression que Dieu l'abandonnait, le leitmotiv, c'est toujours venant des prophètes ou des sages d'Israël. Rappelle-toi comment il t'a tiré du pays d'Égypte, de l'esclavage. Rappelle-toi comment il a englouti Pharaon avec toutes ses armées, etc. Voyez ? Rappelle-toi toujours ce qu'il a fait. Hier, je vous parlais, j'y reviens quand même parce qu'il y a une prise de conscience à prendre aussi. Hier, je vous ai un peu parlé de l'antisémitisme et surtout de son paroxysme qui a été à notre époque la Shoah, qui est vraiment de nature totalement satanique. Eh bien, il y a des signes qui ne trompent pas. J'ai entendu le témoignage il y a plusieurs années d'un vieux juif qui a survécu à une invasion d'un village de Pologne. Tous les juifs ont été arrêtés et envoyés en camp d'extermination. Lui, il a miraculeusement survécu. Il se souvient, il témoigne. Et les pauvres soldats allemands qui étaient là, ils ne savent même pas ce qu'ils disaient. On a obligé aux juifs, on leur a appris un chant, qu'on les a obligés de chanter. Vous verrez, c'est une signature. Ô peuple d'Israël, où est-il donc ton Dieu ? Les eaux de la mer Rouge vont maintenant se refermer sur toi. Vous voyez ? Une sorte d'anti-révélation, d'anti-rédemption, de fermeture par rapport au plan même de Dieu, de refus. Donc vous voyez, c'est ça. Donc en fait, c'est redoutablement simple, mais le combat spirituel peut aller jusqu'à ce paroxysme qui était absolument innommable, mais ce combat dure, et comme je vous l'ai dit hier, il s'engage maintenant aussi contre l'Église. Hein, toute cette christianophobie, etc. L'Église est aussi le nouvel Israël. Alors attention, quand on dit le nouvel Israël, il n'est pas le nouvel Israël à la place de l'ancien, mais par amplification de l'ancien, par croissance de l'ancien, par grâce et par adoption. Voilà. Donc c'est l'Église aussi qui est l'objet de persécution par rapport à toutes les forces de ténèbres qui ne veulent pas de l'élection et qui ne veulent pas de l'action de Dieu donc dans ce monde. Mon Dieu, là, le temps passe. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là avec la mer Rouge. On va reprendre Moïse aujourd'hui. Je ne sais pas du tout comment on va terminer. On ne va pas terminer. Ce sera une symphonie inachevée. Ce sera à vous ensuite de... Je dis quand même, au cas où je l'oublie, que si vous voulez faire une petite recherche sur Internet. Ce que je vous dis là étant très très résumé, très synthétisé, ce que j'ai dit pendant une session en 2007, une session d'été pour des 25-35 ans, et on le trouve sur le site de la librairie de l'Emmanuel ou sur le site Exultet, ou simplement c'est pas gratuit, justement il faut payer pour chacune, c'est l'objet de 4 CD, voilà. Et donc, si vous faites une recherche Google avec mon nom, Jean-Rodolphe Kars, et puis Israël et l'Église, normalement, vous devriez tomber parmi plusieurs choix sur ces. Donc, vous pouvez toujours ensuite approfondir beaucoup plus en détail, où je prends beaucoup plus de temps. Voilà. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.